prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, une croix dressée.
Faire une lecture dans l'évangile de Luc. Alors, je vais vous donner la situation de notre méditation, évangile de Luc, chapitre 19, verset 41. Luc 19 et verset 41. Nous allons méditer sur plusieurs textes cet après-midi et commencer par celui-ci. Comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà pour simplement ce premier récit. Et nous irons visiter d'autres textes en rapport avec la pensée que j'aimerais partager avec vous, donc dans ces moments. Nous sommes interpellés par cette petite phrase. Il nous est dit que Jésus pleura sur elle, pleura sur la ville, qui n'est autre que la ville de Jérusalem, et s'imaginer aujourd'hui que Jésus, faisant son approche de la ville de Dieu, eh bien, en la regardant probablement sur une ou l'autre des collines qui environnent cette ville de Jérusalem, regardant parce qu'on la voit par le bas naturellement, sur ces petites collines qui ne sont pas très hautes, mais ce sont quand même des petites collines, ça ressemble un petit peu au contrefort du Massif central, vous savez, c'est pas très haut. Mais néanmoins, c'est quand même assez impressionnant, parce que toute la ville est un petit peu vallonnée comme cela, et on peut dès lors considérer la position dans laquelle se trouvait Jésus. Et à ce moment-là, il a été saisi d'une forte émotion, et il a pleuré sur cette ville. Il a pleuré sur cette ville probablement pour diverses raisons. Il savait très bien ce qui l'attendait pour lui-même, parce que rentrer dans la ville, c'était pour lui tout simplement son arrêt de mort. Et puis, il y avait une lourde mission qui lui est incombée de remplir. Alors tout cela faisait tout un ensemble de choses. Mais je crois que Jésus a pleuré sur la ville pour la condition de la ville, la condition morale, la condition spirituelle dans laquelle, en effet, se trouvaient tous ces centaines et ces milliers de juifs, d'habitants. Et c'est vrai qu'en première apparence, on aurait pu penser que c'était une ville avec beaucoup de capacités, une ville où Dieu était présent, où Dieu, certes, était présent, ne serait-ce que par ses grandes symboles, ses grandes significations, telles que le temple, telles que la dévotion jour et nuit de ces hommes, de ces femmes, de tous ces gens qui étaient là à servir Dieu dans le sacerdoce et qui ne se donnaient aucun repos, je l'ai dit, jour et nuit. En apparence, ça pouvait véritablement refléter une grande dévotion, une grande consécration, et pourtant Jésus pleure sur elle, précisément en raison de tout cela. On va le voir d'ici quelques instants. C'est pour cela que il ne faut surtout pas se méprendre sur les apparences. Vous savez, Jésus nous a laissé quand même quelques messages sur les réalités et les apparences. Ce qui nous semble être qui n'est pas, ce que les gens disent et ne font pas. Et nous sommes tout à fait recadrés par les enseignements donc que Jésus nous donne à travers le sermon sur la montagne, par exemple, ça commence par là, et puis d'autres choses, et il ne cessera d'ailleurs tout au long de sa vie, eh bien, de bien montrer que ce qui est apparent, ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Et quand Jésus a vu, il savait très bien le fonctionnement, il était juif, hein, et il savait très bien le fonctionnement de tout ce qui se passait dans ces rues, dans le temple même. D'ailleurs, vous remarquerez tout de suite, je ne l'ai pas lu, parce qu'on va passer à autre chose, mais tout de suite après avoir pleuré, regardez le paragraphe qui suit, il nous a dit qu'il est entré dans le temple, et il s'est mis à chasser les vendeurs et tous ceux qui trafiquaient, et il a dit, eh bien, moi je vous rappelle que Dieu a dit que ma maison sera une maison de prière et non pas une caserne de voleurs. Alors, ce qui montre bien qu'il y avait l'apparence à Jérusalem. Il y avait tout un système de fonctionnement religieux. Mais Jésus pleure, parce qu'il sait que, et nous allons le voir tout à l'heure, il le dira, et ça sera inspiré par le grand prophète Ésaïe, où Dieu inspirera donc à son prophète cette parole, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors, ça c'est quelque chose qui nous interpelle, et en disant cela, Jésus prononcera cette parole, qui est une parole pleine de compassion, parce que si les choses pouvaient changer, si le cœur des hommes pouvait aller dans le bon sens, alors il dira, mais si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, le jour où Dieu t'envoie son Messie, où Dieu t'envoie son Sauveur, le serviteur de l'Éternel qui vient au milieu de toi, alors si en ce jour au moins qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, qui appartiennent à ton bonheur, qui appartiennent à tout simplement l'accomplissement de la volonté de ton Père, de ton Dieu que tu connais parfaitement, que tu inscris sur ton front, que tu portes là, eh bien, à l'extérieur de toi-même, d'une manière ou d'une autre, avec des versets, avec toutes sortes de choses, des litanies que tu répètes, la loi de Moïse, la loi des prophètes, tu la connais par cœur. Alors si, véritablement, eh bien, les choses pouvaient prendre une autre dimension, au lieu que ce soit quelque chose de routinier, de machinal, de traditionnel, de rituel, de cérémoniel, si véritablement ça pouvait au moins une fois, pour une fois descendre dans ton cœur, eh bien tu connaîtrais la paix, tu connaîtrais le bonheur. Mais à défaut, puisque tu refuses tout cela, tu refuses de recevoir ton Messie, tu refuses de recevoir eh bien celui qui va payer le prix de tes forfaits, de tes péchés, qui va régler la facture. Alors, si véritablement, eh bien, les choses, tu les considérais d'une autre manière, eh bien, ça changerait tout. Mais puisque tu te rebelles, puisque tu dis, moi j'ai raison, je fais ceci parce que c'est comme ça qu'il faut faire et ça ne sera pas autrement, alors il viendra sur toi des jours, hélas, des jours de malheur, des jours de tristesse, des jours épouvantables où tes ennemis, et tu n'en manques pas Israël d'ennemis, tu en as toujours eu et tu en as encore. Alors tes ennemis viendront, ils t'environneront de tranchées, ils t'enfermeront, ils te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre, et c'est vrai. Pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est important pour la vie de chaque homme, pour notre vie à chacun, pour notre monde, pour les gens qui sont autour de nous, pour Israël encore aujourd'hui, parce que Israël subsiste, eh bien, c'est de prendre la conscience que Dieu visite encore les hommes, et c'est encore quand il est temps que Dieu nous laisse du temps pour que nous puissions saisir véritablement ce que le grand désir de Dieu, au lieu de pleurer sur les hommes, au lieu de pleurer sur son peuple, au lieu de pleurer sur eh bien, notre génération, Dieu pourrait se réjouir d'allégresse, et ainsi, eh bien, que ce salut qu'il a préparé pour tous puisse véritablement être une réalité. Alors, on va passer à autre chose, et ça va nous aider davantage à comprendre pourquoi Jésus a pleuré. Vous savez, visiblement, si ma mémoire est fidèle, Jésus a pleuré deux fois. Il a pleuré sur Jérusalem, et nous allons voir pourquoi maintenant il a pleuré sur Jérusalem. Qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? Pourquoi il y avait des choses qui faisaient pleurer Jésus? Et il a pleuré pour une autre raison, et une raison beaucoup plus noble, je dirais. Il pleurait sur un ami qui s'appelait Lazare, son ami qui s'appelait Lazare, parce qu'il a touché du doigt ce que pouvaient faire les conséquences du mal, la corruption et du péché qui entraînent à la mort. Et Jésus a pleuré, réellement. Il a pleuré pour tous les dégâts, tous les désastres, tout le dommage que cause la mort. Et là, c'était une réalité chez Lazare. Et puis il pleurait aussi, certainement, pour Marthe et Marie, puis tous ceux qui étaient autour, certainement. Il n'y a rien de plus terrible, c'est vrai, que la sanction de la mort. Ça ne devrait pas exister, et pourtant ça existe. Ça a toujours existé, mais un jour ça sera terminé. Alors, on va voir maintenant pourquoi Jésus pleurait. Écoutez, on va lire un paragraphe dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 1er, c'est pas difficile, vous connaissez ce texte, parce qu'on commence toujours par là quand on lit Ésaïe, on commence par le chapitre 1er, hein, naturellement, et on va voir pourquoi. Verset 2, Ésaïe est un prophète, et c'est rappelé dans l'introduction, qui a exercé son ministère très longtemps sous le règne de quatre rois, Ozias, Jotham, Ézéchias et Achaz. Alors écoutez, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Et voilà ce que dit Dieu. « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. » À la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, et tout le corps, tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Voilà le programme. Voilà la constatation. Voilà ce qui faisait pleurait Jésus. A priori, lorsque nous lisons ce texte, on voit un peuple qui fonctionne religieusement. Et si il fonctionne, excusez-moi, mais il est réglé comme une mécanique. C'est peut-être là le problème. Il n'y a aucun défaut. Tout fonctionne selon ce qui doit être fait, sans rien oublier. Et ça semble quelque part, eh bien, immuable, ça ne bouge pas. Mais ce que l'œil de l'homme voit, et ce que Dieu voit, c'est différent. C'est différent. Parce que Dieu n'a pas donné, autant soit-elle sainte, juste et vraie, cette loi, pour que l'homme lui donne une application en l'absence de son cœur et de l'engagement de son cœur. Voilà, toute la question est là. Et Jésus pleurait sur Jérusalem parce que finalement, je le dis et je le répète, Dieu constate que ce peuple loue de la bouche, mais que son cœur n'est plus là. Et vous savez que dans la démarche évangélique, la chose qui est dite, l'invitation qui est faite, la sollicitation qui est adressée, c'est avant tout, non pas les apparences, mais le cœur. Comme le dit le livre des Proverbes, ou le livre de l'Ecclésiaste, je ne me souviens plus, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut entreprendre la conquête du monde au nom de Dieu. On peut avoir une très haute moralité religieuse, une grande sensibilité de conscience pour différentes choses. Mais si, quelque part, eh bien l'essentiel, le fondement, la racine n'est pas là, ça ne va faire que ce que dit l'apôtre Paul, l'apparence de l'humilité, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça, on le sait. Alors, Dieu parle et il prend à témoin les cieux et la terre. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dira, mais j'ai nourri, j'ai élevé des enfants. Et quand on connaît cette fabuleuse, j'enlève le mot fabuleux parce qu'il y a le mot fable dedans, mais cette histoire extraordinaire, surnaturelle, miraculeuse, de l'appel d'Israël à la voix de son Dieu, à suivre son Dieu, on peut dire que les mots sont tout à fait appropriés. J'ai nourri et j'ai élevé des enfants. Alors on va parvenir naturellement sur toute l'historique, à partir des patriarches, mais toujours est-il que c'est ce que Dieu a fait, et dans des conditions qui n'étaient pas des conditions humaines, forcément, qui étaient des choses qui dépassaient la compréhension et l'entendement humain, à savoir, lorsque nous voyons ce peuple sortir d'Égypte, errer pendant 40 ans, et avec une pleine et entière satisfaction de tous ses besoins quotidiens, tout cela parce que Dieu est au milieu d'eux, j'ai nourri, j'ai élevé, mais voilà, ils se sont révoltés contre moi. Vous savez, il y a un phénomène qui est celui de toujours. Et c'est un phénomène que nous retrouvons aussi dans la problématique de la détresse des parents aujourd'hui. Oui, des enfants qui ont été bien élevés, qui ont eu tout, qui ont eu beaucoup, qui ont eu peut-être davantage encore que, leurs propres parents. Et à un moment donné, on le voit, on en parle tous les jours. Qu'est-ce qui pousse des enfants? Qu'est-ce qui pousse le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui pousse parfois des chrétiens, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, à se révolter encore contre Dieu? Ça, c'est quelque chose de mystérieux. Je l'appellerai le mystère de l'iniquité, dont nous connaissons naturellement, en effet, celui qui en est l'auteur. « Alors ils se sont révoltés contre moi, dit Dieu, et il dira, il prendra une image tellement, quelque part, une comparaison ridicule, excusez-moi, mais il dira, mais regardez, vous êtes des hommes, mais regardez le bœuf, qui est un animal, qui fonctionne avec ses instincts. Eh bien, moi, permettez-moi de dire que le bœuf connaît son possesseur, il ne va pas aller chez le voisin. L'âne, finalement, il connaît la crèche de son maître. Mais vous, peuple d'Israël, comme on pourrait le reporter aujourd'hui à notre temps, à notre nation, au monde dans lequel nous sommes, et parfois peut-être à certains chrétiens, on pourrait dire, mais vous avez reçu tout ça, vous avez la connaissance, et vous ne savez pas où est votre maison, votre vraie maison, celui qui est votre, non, pas votre maître, c'est bon pour les animaux, un maître, mais celui qui est votre Dieu, celui qui est votre Père. Alors, le Seigneur dira, mais ils n'ont pas d'intelligence, parce que la véritable intelligence, vous savez ce que nous dit la Bible? La véritable intelligence, nous dit Jérémie, c'est de connaître Dieu. Or, ils ont tout le fonctionnement de connaître Dieu, d'avoir l'apparence de connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Parce que connaître Dieu, c'est autre chose. Ils n'ont pas d'intelligence. Alors Dieu a on est arrivé à inspirer au prophète pour que ses paroles pénètrent et aillent vers le peuple pour qu'il se ressaisisse. Il dira « Mais malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus !» C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. « Je pleure sur toi, Jérusalem, parce que tes ennemis vont t'environner, ils vont te serrer, ils vont te persécuter. » Et quand on voit, et ça c'est épouvantable et c'est émouvant, quand on voit tous les malheurs de cette nation d'Israël, à commencer à partir d'Ésaïe, si on pouvait prendre avant, on pourrait prendre avant, mais à partir d'Ésaïe, où le peuple s'est tellement révolté qu'il s'est retrouvé 70 ans à Babylone, sous la férule de l'Empire des Babyloniens, et ils ont souffert. Ils étaient en camp de concentration, c'est ça. Et quand on voit qu'à travers la dispersion, après la crucifixion de Jésus, ils ont été dispersés dans le monde entier, ils ont été dans tous nos pays d'Europe, l'Europe du Nord, etc., en Afrique, partout, dans le monde entier. Et ils ont souffert. Une souffrance indicible, jusqu'à cette abominable période des camps de déportation nazis, où il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts, dont 1 500 000 enfants. C'est terrible. Et pourquoi tu n'as pas voulu écouter ton Dieu? Pourquoi tu n'as pas voulu recevoir ton Messie? C'est terrible cela. Alors, on voit que le mot malheur est là. Non pas que Dieu aurait voulu que les choses arrivent ainsi, mais Dieu avait dit que si nous vivons de l'obéissance de la parole, notre bonheur serait comme un fleuve. Oui. Mais il en va d'autrement. Il en va de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est exprimée, mais la volonté de l'homme, c'est autre chose. Alors ils m'ont abandonné, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Moi, je les ai aimés, moi, je les ai nourris, moi, je les ai protégés, moi, je les ai conduits, je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin, mais ils m'ont abandonné, tout simplement. Ils se sont retirés en arrière, ils m'ont méprisé. C'est terrible, hein, cette situation. Je prends une comparaison toute simple. Vous savez, quand des enfants font du mal à leurs parents, des adolescents ou des jeunes gens, ils ne sont pas conscients qu'ils font du mal. Hein. Enfin, jusqu'à une certaine mesure, mais néanmoins, non, c'est comme ça. C'est terrible, hein. Eh bien, c'est la même chose. Pour le peuple de Dieu, qu'il s'appelle Israël ou qu'il s'appelle l'Église ou qu'il s'appelle qui vous voudrez, eh bien, souvent, on n'est pas conscient que l'on fait mal à Dieu. Et Dieu le dit. Et il dit sa souffrance. Oui, vous savez que Dieu souffre. Dieu pleure. Jésus pleure. Abandonné, méprisé, retiré en arrière. Je voulais que tu ailles en avant et tu as fait un mouvement de marche arrière. Alors, quel châtiment nouveau vous infligez? Dieu se pose la question. Il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? J'ai déjà tout fait. Qu'est-ce que je pourrais encore inventer pour essayer de le remettre sur le droit chemin? Quelquefois, et je fais toujours en parallèle, les parents sont vraiment dans une situation d'impossibilité en disant « Mais qu'est-ce que nous pourrions faire encore pour nos enfants ?» Pour qu'ils puissent nous parler, dans certains cas, pour qu'ils puissent nous aimer comme nous les aimons, que nous puissions, ça c'est l'histoire du père, hein, du fils prodigue, toujours la même chose, c'est la même histoire qui revient. Et Dieu se positionne comme un père qui souffre. Alors, quand vous multipliez vos révoltes, mais moi je vais vous dire ce qui se passe. C'est que vous êtes malade des pieds jusqu'à la tête. Du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut. La tête entière est malade, parce que la tête, c'est le siège de la réflexion, c'est le siège de la raison, c'est le siège d'une certaine forme d'intelligence, et puis d'un choix également choisi, parce que bon, on a réfléchi, on fait la part entre le bien et le mal, il y a tout le travail de la conscience. Mais tout le cœur, eh bien, est souffrant. Combien de gens souffrent aujourd'hui, hein, ils sont malades dans leur cœur, ils sont malades de la vie. Ils sont malades de la société, ils sont malades de la convoitise, ils sont malades parce qu'ils n'ont pas ceci, ils sont malades parce qu'ils n'ont pas cela, ils sont malades parce qu'ils ont peur de ceci, parce qu'ils ont peur de ça. Le cœur est malade. Vous savez, on soigne le corps des hommes et on a fait des promesses, et Dieu soit béni, de ce qu'il y a des choses qui sont faites. Et on se dit, mais à travers la microchirurgie et puis bien d'autres choses, on se dit, mais les hommes sont capables de faire des choses et qui font vivre naturellement. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas faire. Hein. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il donnera la primeur de son message à Nazareth, il dira ceci. Il dira, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, ça, c'est l'Évangile. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, le Seigneur est capable de le faire. Alors tout est en mauvais état, ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Quelle misère, blessures, contusions, plaies vives. Quelquefois, lorsque nous regardons la souffrance autour de nous, ici et ou ailleurs, elle est beaucoup plus cachée chez nous, mais quelquefois elle est très visible dans d'autres pays. Quelquefois on se dit, mais ça nous donne envie de pleurer. Hein. Pleurer parce que nous sommes impuissants. Pleurer d'autant plus parce que quelque part, lorsque nous voulons faire quelque chose, les gens le refusent. Lorsque l'on parle, est-ce que nous n'avons pas cette souffrance, nous en tant que chrétiens? Lorsque nous proposons aimablement et avec compassion et amour la proposition de Jésus qui est capable de leur faire du bien. Vous avez vu le retour que nous avons? C'est terrible. Ils n'en veulent pas. Et c'est donné, et c'est rendu avec beaucoup de, quelquefois, d'indifférence et de mépris. Blessures, contusions vives, plaies. Et elles n'ont pas été blessées. Elles n'ont pas été pansées, pardon. Bandées ni adoucies. Pourtant, il y avait des hommes qui pouvaient fonctionner dans le cadre de soigner l'âme. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les lévites, il y avait tous ces gens-là. Eh bien, la religion était complètement, totalement inapte. Comme aujourd'hui, elle demeure toujours inapte. Il faut quelque chose de plus. Ce n'est pas se confesser, ici ou là. Ce n'est pas remplir ses devoirs de conscience, ici ou là. Non, il y a plus que cela. Ça, la religion est capable de le faire. La religion est capable de vous donner, de vous mettre dans une ambiance, une atmosphère peut-être d'apaisement, mais les véritables solutions ne sont pas là. Donc les gens restent sans pansement, sans avoir de traitement et aucun adoucissement. Rien du tout. C'est tout simplement sec. Votre pays est dévasté, dira-t-il. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Oui. Que de vies dévastées. Que de pays dévastés, que de nations dévastées. Vous savez, dans le siècle dans lequel nous vivons, un siècle étonnamment violent, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, où il y a tant de choses qui sont choquantes, des dépravations, des corruptions, où le monde est sans dessus-dessous. Je ne sais pas ce qui nous attend. Hein. Il y a toujours un prix à tout. Hein. Si on se met sous la grâce, le châtiment et le jugement s'éloignent, il disparaît, il n'a plus lieu. Mais si l'on reste dans le cadre de la loi, si l'on reste dans le cadre de œil pour œil, dent pour dent, eh bien, on peut s'attendre à des choses et à des tragédies dans notre monde. Hein. Et des choses dont on n'a pas pensé, des choses insoupçonnées, qui viendront soit par la nature, qui viendront la nature en révolte, comme on l'a vu hein, ces derniers temps, ou par des faits de guerre, par toutes sortes de choses. C'est terrible. Hein. Et c'est bien ce qui s'est passé pour Israël pendant des siècles et des siècles. Alors, Dieu constatera, il dira ceci devant ce souffle de destruction. Mais ce souffle de destruction ne vient pas de Dieu, il vient tout simplement de l'inconséquence ou de l'indifférence ou du mépris des hommes. Alors, il dira, mais la fille de Sion est restée. Moi, j'aime bien cette expression, la fille de Sion. Nous, on en a vu quelques-unes, les filles de Sion. Hein, c'est... On en a vu, parce que bon, c'est le peuple, hein, naturellement. Mais toujours est-il qu'elle est prise en quelque chose dans un caractère de beauté pour Dieu, de pureté, de vérité, la fille de Sion. Vous savez, comme la tsunamite, hein, ce sont des très belles images poétiques que nous avons dans la Bible. Alors il nous est dit, mais elle est restée. Elle est restée comme quoi? Dans la dévastation, dans le tourment, dans le désastre. Elle est restée comme une misérable cabane dans une vigne. Il ne restait plus rien. Tout avait été rasé, mais là, une cabane, c'est fragile, c'est comme une tente. Ça branle de tous les côtés, il faut peu de choses pour qu'elle s'écroule. Mais elle est restée debout quand même. Elle est restée parce que le souffle de Dieu était là pour la tenir. Elle est restée également comme une hutte. Vous savez ce que c'est qu'une hutte? C'est loin d'être une maison, une hutte. Hein, hein, quatre planches et puis un toit, un abri sommaire. Et elle est restée quand même debout dans un champ de concombres. Pourquoi les concombres? Je ne sais pas. Mais bon, je ne veux pas aller chercher, il y a certainement une signification hein, dans la pensée hébraïque. Et puis, comme une ville épargnée. Oh, ça, je voudrais vous dire quelque chose. Une ville épargnée. Je parlais avec mon épouse, et quand on se souvient un peu de l'histoire des grandes civilisations de l'Antiquité, quand on pense à Suse, quand on pense à Babylone, quand on pense à toutes ces villes de Perse, etc., ou les palais des pharaons en Égypte, hein, aujourd'hui, tout est en ruine, depuis des siècles et des siècles. Il y avait même une interdiction sur Babylone, qu'elle serait habitée après sa destruction par les hérons et les chacals. Vous connaissez le texte, hein ? Voilà. Et une chose extraordinaire, il y a une ville dans le monde, une ville qui repousse, une ville qui s'écroule, une ville qui est dévastée, une ville où il ne reste pas pierre sur pierre, comme Jésus l'a dit, et à chaque fois ça repart. Ça ressuscite. C'est extraordinaire, c'est formidable. Ah oui. La vraie Jérusalem, vous savez, elle est à 20 mètres en dessous quand vous marchez dessus aujourd'hui. Hein. Ouais. Elle est gardée, elle est protégée. Voilà. Mais comme une ville épargnée, que d'assaillants, que ce soit finalement les armées de Babylone, que ce soit, et vous allez reconnaître la statue de Nebuchadnezzar, que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, que ce soit ensuite toutes ces peuplades qui sont passées les unes après les autres, que ce soit les Mamelouks, c'était un peuple, que ce soit les musulmans, les Turcs, et puis les uns et les autres, que ce soit les croisés. Tout le monde y a passé avec, finalement, la pioche et la pelle pour dévaster, et à chaque fois, c'est reconstruit. Et aujourd'hui, si vous voyez Jérusalem, c'est une ville lumineuse, je le dis bien. C'est une belle ville. Je ne le dis pas parce que, bon... Il y a l'émotion, mais c'est une belle ville. Parce que on se dit, c'est vraiment l'oasis au milieu d'un désert. Parce que tout autour, c'est le désert. Et je me dis, mais Seigneur, Israël, malgré tout ce que tu es en train de nous dire cet après-midi, restera toujours ton peuple, et un peuple qu'il aime. Oui. Alors, comme une ville épargnée, Pâques, vous savez, c'est ça ce que ça veut dire Pâques, épargnée, passer outre. Malgré les dévastations. Si l'Éternel des armées, diront les Israélites, ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et comme Gomorre. Nous, on était faire un petit tour, là, pas dans la région immédiate, mais dans la contrée de Sodome et Gomorre, je peux vous dire que quand vous y allez, si vous n'avez pas le moral, il ne faut pas y rester. Hein. Le désert de Judée, c'est une étendue à perte de vue, de petites collines, de ravins, de ravines, rien ne pousse, il n'y a pas un arbre, c'est jaune, c'est blanc-jaune, dans le souffle du désert, et je peux vous dire que ce n'est pas fait pour se remonter le moral. Tout est brûlé, tout est brûlé. Vous voulez vous désaltérer, vous allez à la mer morte, vous buvez un petit peu d'eau, vous n'allez pas y revenir, et vous allez comprendre pourquoi. Dieu nous a conservés comme un faible reste, et c'est ça le principe de Dieu. Le principe de Dieu... C'est terrible parce que Dieu voudrait sauver tous les hommes. Mais il y a toujours un reste, et de ce reste, c'est un rejeton qui repart et qui prospère. Merci Seigneur. Alors ne vous désolez pas de ce que nous sommes si peu nombreux, ici ou ailleurs. Ne nous désolons pas de ce que Jésus nous dit. Ne crains pas, petit troupeau, parce qu'il a trouvé bon à votre Père qui est dans les cieux de vous donner le royaume. D'accord ? On ne se désespère pas. Merci Seigneur d'être là. Merci de ce que tu as fait de nous un faible reste. Mais de ce faible reste, au temps convenu, le Seigneur est capable de l'arroser de sa grâce. D'une pluie bienfaisante qui fait reverdir le désert. Écoutez la parole de l'Éternel. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu. Qu'ai-je à faire? Et là, c'est là où justement pourquoi Jésus pleurait. Qu'ai-je à faire de vos holocaustes? De la graisse de vos béliers, de vos ceci et cela. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux et puis le reste. Quand vous venez vous présenter devant moi, mais qui vous demande de souiller mes parvis? Le problème d'Israël, c'était un peuple extrêmement pieux, mais dont le cœur n'y était plus. Il faisait tout par tradition et routine. Nous avons eu l'occasion de vivre un sabbat. Tout ferme le vendredi soir, le vendredi après-midi. Donc, si vous voulez faire quelque chose, il faut s'y prendre avant. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on voulait dîner le soir, et tout était fermé. Et on avait faim. Et on s'est retrouvés à l'hôtel. On a été voir dans les restaurants, il y en a plusieurs, tous fermés. Et à un moment donné, on est allé dans une pièce qui était réservée pour les Juifs. Alors bon, on s'est présenté, et puis ils nous ont accueillis, ils nous ont dit, ben installez-vous. Alors il m'a dit, c'est un repas de sabbat, hein. Attention, hein. C'est un repas de fête, etc. Alors c'est vrai qu'on est arrivé dans une société tout à fait particulière. Ce n'étaient pas les dames qui étaient chapeautées, c'était les messieurs. Et puis tout le reste, avec beaucoup de cérémonial, etc., etc. Alors nous, on était un peu perdus dans tout ça, mais c'était intéressant, on ne l'a pas regretté. Parce qu'on a vu hein, comment ça se passait, c'était un repas très, très distingué, hein, naturellement, mais tout était, mais alors vraiment, tiré à quatre épingles, on peut le dire. Hein. Et avec les ablutions, etc., nous on était un peu gênés dans tout ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'était très intéressant de le vivre, surtout qu'ils nous ont accueillis, parce que le maître d'hôtel est venu nous voir, on lui a dit, est-ce qu'on... Il m'a dit, mais vous avez raison, vous allez voir comment ça se passe. Et avec ce monsieur qui est venu, il a pris le temps, il parlait français, il a pris le temps de... tout simplement de s'approcher de nous et de prendre finalement la conversation, il nous a dit, écoutez, vous savez, il y a un problème en Israël. Le problème, c'est que les gens font ça rituellement. Ils font ça toutes les semaines. Et là, on arrivait juste, et on est en plein dans la Pâque, ils sont en train de préparer la Pâque, alors c'est pendant 3 semaines avant, tout s'arrête aussi. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de rituels, beaucoup de choses qui sont faites. Et il disait tout simplement, oui, mais tout ça, c'est de la tradition. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus de signification. Alors, c'est vrai que pour nous, ça a été une complémentarité d'informations et des sources très intéressantes pour finalement comprendre ce que nous lisons dans la Bible. Et du temps d'Ésaïe, ça devait être la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, on comprend cela, hein, mais si le cœur est absent, qu'est-ce qui reste? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Vos nouvelles lunes, vos sabbats, vos assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à tout cela. Parce que si le cœur de l'homme n'est pas régénéré, s'il n'est pas changé, si l'Esprit de Dieu n'a pas fait son œuvre, mais l'homme restera avec ses formules extérieures, avec ses façons de faire, avec ses manières, avec ses traditions, qui vont satisfaire finalement eh bien, le plus grand nombre. Mais derrière tout cela, il n'y a plus rien, il n'y a plus la vie. Est-ce que nous avons besoin? C'est d'un évangile de vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. On l'a vécu, ça. On l'a expérimenté le jour où nous étions encore aussi, peut-être, dans nos traditions religieuses. Le Seigneur est venu frapper à la porte de notre cœur et il nous a dit, moi, en tous les cas, il m'a dit, réveille-toi. Et il m'a donné encore la force de me réveiller et de vivre autre chose. Et c'est vrai pour le monde dont je vous parle, le monde d'Ésaïe, le monde de Jésus, le monde juif d'aujourd'hui. Mais c'est vrai dans nos religions. Dans nos religions historiques, dans nos religions traditionnelles, on a pu découvrir beaucoup de choses. Je suis en train de vous faire le commentaire de mon voyage. Vous auriez mieux fait de venir avec moi. Mais toujours est-il qu'on a vu des choses extraordinaires, parce que Jérusalem, c'est la confrontation de toutes les religions. Alors il y a les religions chrétiennes, il y a les religions musulmanes, enfin la religion, l'islam, très prenante, le judaïsme. Et dans les religions chrétiennes, il y en a quelques-unes. Hein. Hein, les orthodoxes d'ici, les orthodoxes de là, latins, orientaux, venus d'Ukraine, de Russie, avec leurs traditions, leurs habits. Waouh, c'est quelque chose. C'est un spectacle, mais un spectacle d'idolâtrie. Hein. Waouh, ça, nous avons été choqués, parce qu'on dit qu'il y a d'idolâtrie chez nous, dans notre religion, mais je peux vous dire, enfin, dans la religion de notre pays, mais je peux vous dire que quand vous avez affaire... Eh bien, au monde orthodoxe, grec, arménien, et puis de tous ces pays qui sont des pays de l'Est, oh, c'est quelque chose. Vraiment, c'est terrible. Voilà, j'entends. Hein. C'est terrible. On se dit, mais Seigneur, mais s'ils avaient l'Évangile, et c'est vrai que la première réaction, mais s'ils lisaient la Bible, ce serait tellement plus simple. Et on a vu des visages tristes. Des villages malheureux et des gens ont pris l'avion pour venir. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour aller au Saint-Sépulcre ou pour aller au Mont des Oliviers ou pour aller, je ne sais pas moi, à Gethsémané. Et on voit les gens qui sont... ils ont peur. Ils ne sont pas encore rassurés. C'est comme s'il y avait quelque chose qui recouvrait leur cœur. Alors, pourquoi les nouvelles lunes? Pourquoi les sabbats? Pourquoi les assemblées? Parce que finalement, le cœur n'est pas changé. Et cette permanence, eh bien, il y a Dieu qui peut finalement changer les choses. Et Dieu dira à un moment donné, mais je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Vous venez dans mon temple, mais vous faites la même chose. Et mais moi, je n'écoute plus ça parce que j'attends autre chose. Je suis là de les supporter. Vous me fatiguez, en d'autres termes. vos litanies, vos prières, vos redites, tous vos instruments de piété, de dévotion, ça ne sert à rien. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, dixit Jésus. Ce n'est pas parce qu'à force de parole, vous serez exaucé. Mais on retrouve tout ça, on retrouve pour ça. Alors Dieu va prendre l'offensive et Dieu va dire, mais écoutez, lavez-vous et purifiez-vous. Alors les ablutions, il y en a aussi. Mais ce n'est pas les mains qui doivent être lavées. C'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'intérieur de nous-mêmes. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Et c'est ça le grand problème. Vous savez, ce que Dieu stigmatise, c'est la méchanceté du cœur de l'âme. Vous dites quelqu'un qu'il est méchant, il vous dira non, je ne suis pas méchant. Vous dites quelqu'un qu'il est orgueilleux, il dira non, je ne suis pas orgueilleux, je suis plus humble. Bon, pas déjà de dire qu'il est plus humble, c'est déjà qu'il y a quelque chose. Et vous stigmatisez les péchés les uns après les autres, mais les gens ne se reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas. Et même quand c'est Dieu qui le dit, ils ne se reconnaissent pas. Cessez de faire le mal. Et pour cesser de faire le mal, au moins venez vers moi et apprenez à faire le bien. Et comme ça, vous verrez la différence. Celui qui fonctionne toujours dans le mal, il ne sait pas ce que c'est que le bien, puisqu'il a toujours appris à faire le mal. Mais quand on a la différence, quand on voit, quand Dieu ouvre nos yeux, quand il ouvre notre cœur, en ce moment-là, on peut faire une comparaison. Écoutez, quand le Seigneur est venu dans notre vie, il nous a montré que ce qui était mal, c'était mal. Mais il nous a montré à travers l'Évangile qu'il y avait un autre chemin, une autre voie, que l'on appelle la voie de la vérité, la voie de la justice et du bien. Et à ce moment-là, nous ne savions pas qu'elle existait. Et c'est dans la comparaison. Et après, il nous a donné encore la grâce de le choisir. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et puis cette belle parole, qui est vraiment une parole évangélique, venez et plaidons, approchez-vous. Moi, je tends les mains vers vous. Je vous supplie de venir vers moi parce que j'ai quelque chose de bon à vous donner. Alors venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ça comprend aussi tous ceux qui sont chargés de dévotion, de tradition, de ritualisme, de toutes sortes de choses. Venez et vous trouverez du repos pour vos âmes. Parce que finalement, dans tout ce contexte-là religieux, ça ne donne pas du repos pour l'âme. Au contraire, ça vous charge encore davantage. Venez et plaidons. On va discuter. Parce qu'à ce moment-là, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il n'y a pas de cramoisi ici. Non. C'est des couleurs lumineuses. Mais le cramoisi, quelque chose de très fort, c'est du rouge. C'est ça, très très marqué. Comme le sang peut-être. Voilà. Ils deviendront blancs comme la neige. Vous savez, on chante un beau cantique où il est question que nos péchés sont purifié par le sang de Jésus. Alors, c'est quand même assez paradoxal parce que le sang s'attache. Or, le sang de Jésus, il lave. C'est comme ça. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors voilà la proposition qui nous est donnée. Et si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oui, Seigneur. Moi, quand je vois ça, et quand j'y réfléchis, je me dis, Seigneur, en ce qui concerne Israël, dès les premiers jours, tu leur as donné un pays où coule le lait et le miel. Ouais, où coule le lait et le miel. Et quelquefois, il y a des expériences dans la vie où Dieu voudrait nous attirer dans le pays où coule le lait et le miel. J'ai eu, c'est une affaire personnelle, mais quand notre fille est partie à Mayotte, je lui ai dit, je crois que c'était vraiment une parole de l'esprit, je lui ai dit, tu vas aller à Mayotte, et c'est dans ce pays, pour toi, où coulera le lait et le miel. Effectivement, parce qu'il fallait l'arrêter dans ses voyages, et il fallait qu'elle se pose à un moment donné. Et je lui ai dit comme ça une inspiration, et juste avant qu'elle parte, c'était à deux doigts qu'elle prenne l'avion, et véritablement, elle l'a vécu après. Elle ne comprenait pas ce que je lui avais dit. Tu vas aller là, le Seigneur va te conduire et tu verras que c'est là où coule le miel. Ils ont passé 4 ans et c'était véritablement pour elle, vous la connaissez, elle était là ce matin, pour elle vraiment une véritable bénédiction où elle s'est calmée, où elle s'est posée, où elle a pu apprendre beaucoup de choses et rentrer dans la vie tout simplement. Et c'est vrai, je crois que le Seigneur lorsque nous lui obéissons, lorsque nous le laissons nous calmer de nos agitations, de nos passions, de nos envies de ceci et cela, de courir le monde, ce qui était le cas, eh bien, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et je crois que Dieu veut ça pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Moi et nous, nous voulons prier pour le peuple d'Israël, pour que bientôt il reconnaisse son Messie. Ouais. C'est un peuple qui souffre. C'est un peuple qui a souffert comme peut-être jamais peuple n'a souffert dans l'histoire. Il y en a d'autres, hein, mais jamais peuple. Mais je crois qu'il arrive un temps, et il arrivera un temps, où comme selon les prophéties de Zacharie, eh bien ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Seigneur, envoie un esprit de repentance. Envoie un esprit de reconnaissance. Ouvre les yeux des cœurs, de leur cœur, de nos cœurs et de notre peuple aussi. Il en a besoin. De nos pays occidentaux, de nos pays occidentaux. Alors, on comprend pourquoi Jésus pleurait. Il pleurait sur la ville de Jérusalem. Et je crois que Jésus pleure encore sur des fils et des filles prodigues. Mais ne vous désespérez pas. Et puis, il pleure encore sur tous ceux qui ne sont pas encore appelés nos frères et nos sœurs, qui ne sont pas rentrés dans la famille du Seigneur, la famille de Dieu. Mais le Seigneur sait comment faire. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu nous donne sa grâce. Alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Seigneur a toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'en disant ces paroles, nous voulons tout simplement être les agents, être le canal, Seigneur, d'une pensée toute simple, exprimée par une voix humaine, à travers des mots, un vocabulaire qui reste tout à fait humain. Mais Seigneur, il y a un message, un beau message d'espérance. Parce que nous savons une chose, c'est qu'à partir du moment, Père éternel, où, eh bien, c'est vrai, il y a quelque chose qui nous frappe, la mort ou autre chose, pour toi, Seigneur, ce n'est jamais quelque chose de destructeur. C'est quelque chose qui nous fait vivre. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que tu nous rappelles que si le grain de blé ne meurt, il reste seul et il disparaît dans la terre. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, c'est vrai, ce matin, nous voulons te prier, Seigneur, pour cette nation. En effet, pour le peuple d'Israël, le peuple nouveau d'Israël d'aujourd'hui. Seigneur, fais grâce, Père, dans ta bonté, dans ta fidélité. Comme Paul le disait, le vœu de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé. Oui, Seigneur. Et puis, nous voulons te prier, Seigneur, parce que nous sommes des hommes des nations. Eh bien, nous voulons te prier pour nos nations. Nous voulons te prier particulièrement pour notre nation, pour notre peuple. Nous te prions pour notre région, te prions pour notre ville, afin que, Seigneur, dans le nom de Jésus, par-delà les traditions, par-delà les rites, par-delà les habitudes et les routines qui n'en finissent pas et qui épuisent, en effet, Seigneur, le cœur et la conscience et l'esprit des hommes, nous voulons te demander d'envoyer ton Saint-Esprit. Et ainsi, Seigneur, d'aller ici ou là. Et ainsi, Seigneur, de sauver, de pardonner, de donner, Seigneur, la véritable signification de ce pourquoi tu es mort à la croix, puisque tu nous dis, Seigneur, que Jésus a donné sa vie pour le salut du monde entier. Merci, notre Dieu. Béni, béni encore. Merci, Jésus. Amen. Amen.